Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et le potentiel des marchés avec nos experts, nos coéquipiers du club. Laurent Clavel, bonsoir Laurent, bienvenue.
Bonsoir.
Responsable du multi-asset au sein d'AXA IM. Julie Jourdan aussi nous accompagne, gérante action américaine pour Amplegest. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Et bienvenue également, ravi de vous retrouver l'un et l'autre. On est encore dans la première phase des publications, mais quand même cette semaine a été dense, sans doute riche de premiers enseignements d'ailleurs. Laurent, quelle ligne directrice voyez-vous se dessiner à l'issue de cette semaine très très dense?
Alors je pense qu'il y a deux éléments que vous avez évoqués. Le premier, c'est quand même que dans l'ensemble, les résultats sont bons. Et il y a pas mal de surprises à la hausse par rapport à des attentes d'analystes qui étaient déjà assez favorables. Donc ça, c'est une dynamique positive. Le deuxième élément, c'est que il y a de la dispersion. Et cette dispersion, vous l'avez mentionné également, elle est sanctionnée ou remerciée. Donc il y a deux choses à voir, c'est que, et je laisserai Julie dire plus de détails sur l'aspect entreprise par entreprise, mais ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des bons chiffres et des chiffres supérieurs aux attentes. Il faut aussi avoir un discours prospectif, c'est-à-dire ce qu'on appelle la guidance, donc pouvoir envoyer un message sur la suite des opérations qui soit également positif et crédible.
Et là-dessus, Julie, alors vous regardez les publications notamment aux États-Unis, puis on est au cœur aussi de cette saison en Europe, vous sentez effectivement, parce qu'on parle tout le temps de la tech, mais là on va essayer de regarder plus largement, vous sentez qu'effectivement les perspectives sont encourageantes, même si par exemple la croissance américaine est peut-être amenée à ralentir cette année, on a eu un PIB du premier trimestre un petit peu décevant, les perspectives des entreprises reflètent ce ralentissement ou elles restent au contraire très très solides?
Alors déjà, si on revenait juste 10 secondes sur le PIB américain, on a quand même des éléments spécifiques qui expliquent la faiblesse hier du PIB. On attendait effectivement de 2, on a eu un 6, c'était moins bon. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a quelques éléments un petit peu spécifiques qui expliquent la déception. Les stocks en particulier, le gouvernement, les dépenses gouvernementales qui ont été plus faibles qu'habituellement, et également les exportations, parce que les Américains consomment relativement beaucoup, et donc les importations, effectivement, dans ces cas-là, le ratio est un petit peu défavorable. Si on regardait ça avec un autre biais, en normalisant, en excluant les éléments qui semblent un petit peu atypiques, on est plutôt sur une croissance de 3%.
Ah oui.
Donc, c'est pas si mauvais. Après, oui.
On aimerait bien avoir la même en Europe.
Tout, et c'est la réalité, c'est un 6 pour le moment. Mais ça montre que le sous-jacent de croissance, il est pas si mauvais. Bien au contraire, il est assez solide.
Donc ceux qui commencent depuis le chiffre de croissance d'hier aux États-Unis à parler de possible stagflation, vous dites qu'ils se trompent. Non, on va pas vers une stagnation de l'économie. On est
toujours en croissance. L'inflation est néanmoins un sujet et un point de vigilance. Ça, là-dessus, il y a pas de doute.
L'indice PCE a été publié tout à l'heure et on a une petite réaccélération de l'inflation core aux États-Unis dans le PCE.
Tout à fait.
Ça, c'est pas très bon ça. Ouais.
Donc tout ça se traduit aussi par des réévaluations en fait des attentes sur les taux parce que tout le monde a ça en ligne de mire et effectivement c'est des éléments qui sont importants. Après quand on revient aux entreprises et aux messages qu'elles délivrent, on voit qu'il y a vraiment différentes tendances qui se dégagent. Notamment dans un certain nombre de secteurs qui avaient été sous pression pendant longtemps dans cette phase de normalisation parce que Covid, en particulier chez certaines industrielles, on voit qu'on a des surprises positives un petit peu supérieures à ce qui aurait pu être attendu. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire que les surprises positives, elles se font dans un cadre où les révisions négatives, alors ça, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde, mais étaient moins fortes qu'elles ne le sont historiquement. Et la partie des surprises positives, elle est, elle, plus forte. C'est-à-dire que globalement, les profits américains sont en moyenne 6% aller au-dessus des attentes. C'est meilleur que ce qu'on a comme ratio historique. Après, attention, on n'a qu'un tiers des sociétés qui ont publié. Hein. Donc, on va voir comment ça se déroule.
La semaine prochaine, d'ailleurs, sera riche encore. La semaine prochaine, on aura aux États-Unis McDonald's et Coca-Cola. Je crois que ce sera mardi. Intéressant de voir d'ailleurs comment ils communiquent face à la concurrence des médicaments anti-obésité. McDonald's et Coca-Cola la semaine prochaine. Très intéressant. Ils publieront le même jour. Et puis, dans la tech, Apple publiera jeudi prochain. On aura aussi Amazon qu'il ne faudra pas rater. Mais effectivement, c'est une question qui se pose. Alors que le chiffre de croissance aux États-Unis hier peut poser question, mais quand on regarde les sous-jacents, en fait, ça reste assez dynamique. Est-ce que les perspectives des entreprises, effectivement, tendent à dessiner un avenir moins rose pour les États-Unis? C'est pas évident, ça reste très solide du côté des entreprises. Du côté de l'Europe, on espère un regain de croissance pour le coup. Les PMI ici en Europe s'améliorent. Effectivement, cette année 2024, à vos yeux, Laurent, sera peut-être même l'année du comeback de l'Europe. C'est ce que nous disait il y a quelques jours David Krug pour la Financière de l'Échiquier. Attendez-vous au comeback de l'Europe. Est-ce que c'est votre scénario? En tout cas, c'est un scénario qui monte en puissance pour vous.
Alors, c'est pas un scénario aberrant dans le sens où... Commençons par revenir sur ce qui était évoqué. Il n'y a pas de contradiction en fait avec la progression des bénéfices et l'inflation. D'autant plus que quand on regarde le chiffre d'inflation qui est sorti, ce qui angoisse tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie, hors alimentation.
Il accélère. Le PCE accélère.
Absolument.
Il accélère pas. Il est stable. On l'attendait
à un niveau qui est élevé.
Et il est stable.
Ouais. Mais encore une fois, les bénéfices des entreprises, c'est construit en nominal, c'est-à-dire en euros courants ou en dollars courants. Et donc, il faut bien faire la somme de ce qu'on appelle la croissance du PIB, en l'occurrence la croissance de leur activité réelle et de l'inflation, si les entreprises arrivent à faire passer dans leurs prix les augmentations de prix plus générales. C'était donc tout le sujet du pricing power. Mais très fondamentalement, quand on parle de l'inflation des prix, c'est bien des entreprises qui vendent des produits, des biens et des services à des niveaux plus élevés. Donc c'est bien la somme des deux, la croissance réelle que vous avez évoquée, qui est un peu décevante, mais quand on regarde sous le capot, c'est quand même pas si mal que ça, et donc disons 2,5-3%. Vous avez de l'inflation sous-jacente qui aux États-Unis est encore élevée, donc à 3%. Vous avez du nominal, donc la croissance des bénéfices qui part sur du 6% plus. Donc ça, c'est très bon quand même. Après, il y a un autre débat qui est effectivement la politique monétaire, et qui renvoie à cette angoisse qu'on ait une dévalorisation de la partie action si les taux devaient remonter, notamment un renchérissement du coût de la dette. Ça, c'est un autre sujet, mais sur l'aspect dynamique des bénéfices, on est sur quelque chose de très dynamique.
Je sens que vous brûlez, Laurent, de parler aussi de la note de la France. Fitch et Moody's, ce soir, les agences de notation vont annoncer leur décision. On en a un petit peu parlé aussi dans la précédente heure de BFM Bourse. On en parlera dans un instant. Mais juste avant, je voudrais aussi attirer votre attention sur quand même la déclaration du jour. Celle qui aujourd'hui fait le plus parler dans les salles de marché et même dans la société française, on peut le dire, c'est Total Energy, dont le PDG Patrick Pouyanné n'exclut pas de faire de Wall Street la place principale de cotation pour Total Energy. Donc, Total Energy serait d'abord un titre Wall Street plus qu'un titre parisien. Incroyable. Un coup dur peut-être à venir pour la Bourse de Paris. Et c'est une question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, notre fil X et notre fil LinkedIn BFM Bourse. Vous tous qui nous suivez, vous pouvez vous abonner à ces deux fils BFM Bourse. Pour vous, Total doit-il quitter la Bourse de Paris? Alors vous êtes un tiers, 32% à répondre oui. Oui, Total Energy doit, a intérêt à quitter la Bourse de Paris. Un tiers. Et une majorité quand même à 50% à répondre non. C'est toujours ce match entre les marchés européens et Wall Street. Total Energy attiré par Wall Street. Comment est-ce que vous l'interprétez ça, Laurent?
Alors, faut pas faire de confusion et c'est le cas aussi quand on fait le lien entre l'activité et les valorisations. Comme vous savez, il y a énormément d'entreprises européennes qui marchent très bien et qui sont valorisées à des niveaux élevés parce que justement, elles sont connectées, leur chiffre d'affaires est connecté à l'ensemble de l'économie mondiale. Donc ensuite, ça peut amener des effets difficiles, notamment quand elles sont très liées à la Chine à un moment donné où la Chine.
Et pourquoi Wall Street? Non, mais la question est très simple. Pourquoi voilà, Wall Street plutôt que la Bourse de Paris?
C'est pour une logique de détention. C'est-à-dire que le marché, enfin les investisseurs américains et notamment les investisseurs particuliers, les privés, enfin les gens comme vous et moi, aux États-Unis, il y a un niveau de littératie financière, en tout cas d'acceptation de l'investissement en actifs risqués américains qui est très élevé. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on a des ménages américains qui ne sont pas des spécialistes de la finance qui vont acheter des actions d'entreprises individuelles. Donc concrètement, ils achètent du Nvidia, du Tesla, du Amazon et on l'a vu. Et
du Chevron, du Exxon dans le pétrole.
Absolument. Et c'est assez bluffant parce que quand on regarde les flux et on peut effectivement regarder les catégories des investisseurs pour savoir un peu qui est acheté, on s'aperçoit que donc ce qu'on appelle le retail américain, c'est-à-dire les gens normaux, ont acheté finalement ces boîtes de la tech plutôt en avance de phase par rapport aux gérants d'actifs. Donc ils ont été assez malins en fait dans cet élan. Et évidemment, ils ont nourri cet élan puisque ça a fait du volume, de l'intérêt. Donc c'est juste la logique de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de demandes pour acheter ces titres, ça fait augmenter le prix à offre inchangée. Je pense qu'il y a cet effet-là dans la déclaration du PDG de Total. Il y a aussi une réalité qui existe déjà dans la détention d'actifs pour cette entreprise française. Donc, il vient pas chercher des nouveaux investisseurs. Il constate la réalité de sa base d'investisseurs.
Oui, c'est-à-dire qu'il veut s'approcher des investisseurs de Total Energy qui sont de plus en plus nord-américains. C'est ce qu'il dit. Les Européens achètent de moins en moins notre titre Total Energy. Ils le conservent, voire ils l'allègent. En revanche, les Américains, eux, l'achètent de plus en plus, au point que les Nord-Américains, dit Patrick Pouyanner, présentent maintenant quasiment la moitié de notre capital. Voilà. Et donc, on veut se rapprocher éventuellement. En tout cas, on y réfléchit. Pourquoi pas? C'est la conséquence aussi. Alors là, je vais peut-être vous mettre mal à l'aise, je sais pas, mais de l'ESG. Enfin, en Europe, on est un petit peu plus strict sur l'ESG, un peu plus exclusif que les Américains. Du coup, il y a peut-être effectivement moins d'Européens qui investissent dans le titre Total Energy que moins d'Européens que d'Américains. Ça finit par devenir un handicap pour l'attrait de nos places financières et pour Paris, par exemple, face à Wall Street.
Alors, non. Honnêtement, et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais la vision qu'on défend chez AXA-IM sur cette logique-là, c'est pas celle-là. Et donc je pense que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que la logique de l'intégration ESG, c'est d'aller chercher dans chaque secteur, en s'efforçant de ne pas faire de déformation sectorielle, les entreprises les mieux disantes. En fait, c'est très logique. Si on enlève... Comment fonctionne l'économie marchande sur de l'énergie? Si on enlève la totalité du secteur énergétique, il n'y a pas d'économie. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de construire un portefeuille en se disant « je ne veux pas le secteur énergétique ». Par contre, se dire « au sein du secteur énergétique, je veux les entreprises qui font le plus d'efforts, qui ont et qui ont une stratégie crédible pour affronter la transition qui est une réalité », ça fait du sens. Donc non, je ne pense pas. Total, d'ailleurs, c'est pas la seule, mais il y a un certain nombre d'entreprises énergétiques européennes qui ont été analysées par un certain nombre de notations comme très crédibles sur ce sujet de la transition. Donc ça vient accaparer, les meilleurs accapareront les flux d'investissement de ce point de vue-là.
D'accord. Donc l'ESG n'est pas forcément un handicap pour les marchés européens, même si un groupe comme Total Energy pourrait choisir un jour de faire de Wall Street sa place principale de cotation plutôt que Paris. Voilà.
Encore une fois, je pense vraiment que c'est le sujet de est-ce que c'est possible d'avoir du privé, donc du retail européen, que ça intéresse d'aller acheter des actions, et c'est difficile.
Les Américains, ils jouent leur retraite en bourse. Enfin, ils placent leur retraite dans les marchés financiers. C'est pas le cas des Européens. C'est pour ça qu'ils investissent si massivement dans le marché. C'est pour ça que les flux aux États-Unis sont plus importants, les volumes aussi, les liquidités plus importantes encore qu'en Europe. Et c'est peut-être ça aussi que Total Energy vient chercher. Julie, vous êtes spécialiste des marchés actions américains. C'est intéressant. On peut comparer par exemple la valorisation de Total Energy à celle de ses pairs, les autres grandes majors pétrolières, dont les performances industrielles sont pas forcément meilleures, mais dont la cotation en bourse, elle, est beaucoup plus performante.
De manière structurelle, le marché américain est plus cher. Ça, c'est quelque chose qui est aussi qu'il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, le fait qu'on ait une cohorte d'investisseurs qui est beaucoup plus large, effectivement, parce qu'ils sont obligés de placer leur retraite partiellement en bourse. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et de l'autre côté, parce que souvent, ce sont des marchés d'innovation. Et donc l'innovation, c'est source de plus de croissance, et cette source de croissance se valorise plus cher. Mais même quand on regarde l'énergie, et c'est vrai que moi, je ne connais pas Total Energy, je ne pourrais pas parler de ses fondamentaux.
Mais vous connaissez Chevron, Exxon, les Américains.
Mais quand on regarde Chevron ou Exxon, en fait, ça se paye beaucoup plus cher en termes de valorisation. Quand on regarde le PE de Total Energy, ça s'échange 8 fois l'année prochaine. Quand un Chevron ou un Exxon s'échange 13 fois. Et 13 fois, c'est pas beaucoup au regard de la valorisation du marché américain. Et quand on regarde juste combien ça se paye les ventes, là, on est carrément à 0,7 fois quand on est à 1,40 fois. Donc, on est moitié moins cher que ce que ne sont les Américaines. Donc, c'est vrai que les Américains sont prêts et à payer plus cher structurellement sur des valeurs d'énergie.
Bon, on verra quel sera le choix. Oui, allez-y, Laurent.
Je suis entièrement d'accord. Il y a deux effets auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est effectivement la composition sectorielle des indices. C'est-à-dire que dans les actions américaines, il y a beaucoup de valeurs de la technologie qui se payent de façon générale plus cher. À l'inverse, en Europe, il y a davantage de bancaires
qui se payent beaucoup moins cher.
Or, les bancaires, de façon structurelle, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, se payent moins cher. Donc si, en composition, vous avez davantage de bancaires qu'aux États-Unis et que justement les bancaires, quelle que soit la région, se payent moins, mais du coup la région se paye moins. Vous avez raison, au-delà de ça, il y a ce différentiel de valorisation qui est
Oui, parce que dans le même secteur, voilà. Là, pour le coup, je dis comparé au sein du secteur pétrolier, Total est beaucoup moins cher qu'un Chevron ou un Exxon. Donc, quand on est aux États-Unis, on arrive à beaucoup mieux se valoriser qu'en France ou qu'en Europe.
Et de ce point de vue-là, ça permet de faire le lien avec votre question tout à l'heure, qui est est-ce qu'on peut voir le renouveau du marché actions européen à partir de maintenant, en 2024 et voilà. Ce qu'on voit, on en revient à nos amis investisseurs particuliers américains, c'est que quand le dollar est très cher, et on l'avait vu fin octobre 2022, on avait un niveau du dollar qui devenait vraiment, vraiment très élevé, dans un moment un peu de panique de marché. Du coup, ce que faisaient un certain nombre d'investisseurs américains, c'est qu'ils allaient acheter des valeurs européennes, donc des actions européennes, et ils ne hedgeaient pas la devise. Donc ça veut dire qu'ils parient implicitement sur le fait que le dollar va se déprécier. Et du coup, ça faisait des rendements pour un investisseur en dollars qui étaient vraiment magiques. Parce que derrière, vous avez eu une dépréciation du dollar versus l'euro qui était de l'ordre de 10%, parce qu'on est passé d'en gros 0,95 à 1,05. Donc vous prenez 10%, et en plus, on est sur un moment où le marché actions européen était très peu cher, notamment en différentiel. Il repart, et de fait, sur la période novembre-décembre, et en gros jusqu'à l'effet Silicon Valley Bank Crédit Suisse, on a une surperformance du marché actions européen qui est en partie liée à ces flux.
Mais c'était une exception, on est d'accord. Non mais vous défendez, vous êtes l'avocat des marchés européens ici, manifestement.
Non mais je pense que...
Et je comprends. Mais est-ce qu'à la fin, non mais par exemple sur l'ESG, voilà, effectivement c'est aussi l'ESG, c'est utile l'ESG, c'est nécessaire même pour la planète, on est bien d'accord. Et même sur les critères sociaux et de gouvernance, on est d'accord. Mais pour l'investisseur, aux États-Unis, c'est moins un frein manifestement que pour l'investisseur en Europe. Est-ce que les règles ESG sont pas un peu trop strictes ici en Europe par rapport aux règles ESG telles qu'elles sont aux États-Unis? Est-ce qu'à vouloir être la plus herbivore de toutes, l'Europe finira pas au milieu de tous les carnivores en steak, quoi? Enfin...
Alors comme vous savez, il y a une certaine ambivalence aux États-Unis sur l'ESG, puisqu'on a on a tout le spectre, ce qui est assez logique, hein, puisque les États-Unis, oui, ça reste quand même une zone énorme, hein, c'est plus de 300 millions de personnes, donc la bonne comparaison c'est évidemment l'Union Européenne. Et il y a peut-être davantage de cohérence et d'accord au sein de l'Union Européenne sur ce qu'on essaye de faire. Comment on le fait, il n'y a pas forcément d'accord, mais sur la direction et sur les défis auxquels on fait face. Là, aux États-Unis, comme vous savez, on est arrivé à un niveau de polarisation politique sur ce sujet-là qui est extrême. Et donc, aller expliquer à un Californien qu'il n'y a pas de problème avec le réchauffement climatique, bon courage. Donc, on a quand même des investisseurs, notamment institutionnels californiens, que ces sujets continuent d'intéresser. Et à l'autre bout, on sait que on a même pas seulement réglementaire, mais il y a même un souci contentieux avec un certain nombre d'investisseurs américains, oui, qui se retrouvent dans une situation difficile, oui, parce qu'ils ont du mal à défendre la politique ESG qu'ils ont choisie.
Et même BlackRock, par exemple, qui a pris ses distances.
Qui est cité, mais oui. Absolument.
Effectivement. Bon, alors les États-Unis ne sont pas quand même complètement immunes à tout. Il y a une dédollarisation du monde, alors légère et douce, mais quand même qui est à l'œuvre. Un certain nombre de pays émergents qui essaient de diminuer leur exposition au dollar en achetant de l'or. Beaucoup de banques centrales, par exemple la Chine. Et il semble que ça courrousse les équipes de Donald Trump. On est toujours en pleine campagne électorale aux États-Unis. Les conseillers c'est Bloomberg qui nous rapporte cette information. Les conseillers de Donald Trump envisagent, pourquoi pas, des sanctions à venir vis-à-vis des pays, Julie, qui choisiraient de se dédollariser. Des sanctions américaines contre les pays qui choisiraient de réduire leur exposition au dollar.
Je crois qu'il y a beaucoup de déclarations en ce moment, hein, de l'équipe de campagne de Donald Trump. On a des déclarations qui sont là-dessus. On a des déclarations qui sont sur la nouvelle gouvernance potentielle de la Fed. On a beaucoup de déclarations. Aujourd'hui, toutes ces déclarations, c'est beaucoup de bruit. On verra demain qui est élu, et c'est vrai que la réalité d'aujourd'hui, c'est que il y a cette dédollarisation, certes, mais ça reste quand même une, oui, monnaie d'échange tout à fait pertinente, et on le voit bien notamment sur les matières premières et sur un certain nombre de transactions.
On pourrait imaginer comme ça, si Donald Trump était réélu, que les États-Unis imposent des sanctions aux pays qui choisiraient de se dédollariser. Enfin, on fait ce qu'on veut de ses réserves quand on est une banque centrale. Enfin, on est encore libre. Enfin, j'imagine, je ne sais pas d'ailleurs, Laurent.
Je pense qu'il faut le regarder dans l'autre sens. C'est de quel pays on est en train de parler ? On est en train de parler de ce qu'on appelle le Global South, donc
les BRICS,
pays du Sud, voilà. Donc, et c'est la même chose que les BRICS. Effectivement, le contexte international, il est assez clair sur le positionnement des États-Unis vis-à-vis des BRICS. Les pays qui empilent des réserves en or, c'est la Chine, c'est la Russie. Que Donald Trump hausse le ton vis-à-vis de la Chine, bon, on l'a déjà vu en 2016. Donc finalement, ce discours-là, il est très aligné avec le discours qu'il a aussi sur les sanctions commerciales. Et l'idée qu'il avait déjà développée assez profondément, hein, en 2016, qui était que la Chine et aussi l'Allemagne, il avait évoqué l'Allemagne, volaient les Américains en ayant un excédent commercial. Bon, c'est une façon très curieuse de voir le commerce mondial. Hein. Ça ne correspond pas vraiment à une réalité en pratique. Et à la fin, il faut bien que les échanges s'équilibrent, sauf si on veut faire du commerce avec Mars et la Lune. Donc tout ça n'avait pas beaucoup de sens. Et à la fin, ce qu'on a quand même eu pendant des décennies, c'est des Chinois qui travaillaient beaucoup, qui empilaient effectivement des exportations qui se retrouvaient en papier américain, qui a quand même perdu une valeur considérable. C'est-à-dire que ce qu'ils ont acheté, en fait, c'est des bons du Trésor américain, c'est-à-dire la dette fédérale américaine, notamment à long terme, qui a perdu entre 20, 30, 35% en dollars avec la hausse des taux. Mais en plus, à cette époque, on avait une appréciation de la devise chinoise. Donc ça fait un double effet pas très intéressant, en fait, oui, pour les Chinois.
Qui rend la dette américaine un peu moins attractive. Effectivement. Alors la demande est là, hein, sur les adjudications américaines depuis le début de l'année, un peu moins là avant-hier sur une adjudication à 5 ans. Il faudra surveiller ça.